Bonjour à tous, bienvenue dans le Labomatique, votre émission dédiée à la recherche scientifique sur Radio Campus Rennes. Et cette semaine, il s'agit d'une émission un peu spéciale puisqu'elle sera consacrée à l'équipe de Tara Océan. Alors pour ceux qui ne le savent pas déjà, Tara Océan, c'est un bateau composé essentiellement d'un équipage de scientifiques. Leur objectif principal, étudier le plancton sur l'ensemble des océans de la planète. Après plus de 2 années passées en mer, le bateau est revenu dernièrement en Bretagne avec des milliers d'échantillons à analyser. Après 900 jours en mer, plus de 115 000 km parcourus pour échantillonner le plancton et pour étudier les récifs coralliens, l'équipage de Tara Océan a posé le pied à terre le 31 mars dernier à Lorient. L'occasion pour moi d'aller à leur rencontre pour en savoir un peu plus sur cette expédition hors du commun, impliquant scientifiques et professionnels de la navigation. Une occasion aussi de découvrir les différents projets mis en place dans les écoles pour suivre le bateau et le travail des scientifiques. Lucie Bittner est une scientifique qui s'intéresse de très près au plancton. Elle a eu la chance d'embarquer à bord du bateau. Elle nous raconte ce qu'elle a fait et comment elle a vécu l'expérience.
Oui, bonjour, je m'appelle Lucie Bittner et donc je suis postdoctorante actuellement et je travaille sur la diversité génétique du plancton.
Donc de manière générale, Tara Océan, la mission, c'est combien de jours, combien de kilomètres parcourus et combien de personnes qui sont montées sur ce bateau ?
Donc pour les chiffres de la mission, c'est plus de 200 personnes qui sont passées à bord du Tara, des scientifiques et des marins, tout le monde ensemble. 2 ans et demi donc d'expédition, 3 tours du monde, l'équivalent de 3 tours du monde sûrement, et autant de personnes à bord qu'à terre qui travaillent pour la logistique, que ce soit en amont ou en aval, et on en aura au moins pour une dizaine d'années d'analyse et de publication de résultats scientifiques.
Vous avez eu la chance d'embarquer pour l'expédition Tara Océan. Qu'est-ce que vous y avez fait au niveau de la recherche sur le bateau ?
Donc effectivement, j'ai eu la grande chance. J'ai commencé un postdoctorat à l'issue de ma thèse. Et le sujet, c'était étudier la diversité planctonique d'un groupe en particulier de protistes, mais à partir donc des données Tara. Et donc, le rêve, on va dire, dans ce postdoc, ce qui m'a été vendu et ce qui est devenu réalité, c'est que j'ai pu partir 3 fois sur le bateau. C'est-à-dire dans la première année, la deuxième année et 2 ans et demi, enfin, et vers la fin, en fait, de l'expédition. Donc, je suis partie 3 fois. Et mon rôle, c'était vraiment récolter les protistes.
Tara Océan, c'est une opportunité que vous avez saisie, on vous l'a proposée ?
Tout à fait. On m'a dit, tu vas commencer à travailler 2 ans, enfin tu vas travailler 2 ans sur Tara, tu vas partir sur le terrain, récolter tes échantillons et ensuite tu vas pouvoir les analyser au laboratoire.
On parle de plancton, de protistes, mais alors de quoi il s'agit ?
Le plancton, les protistes, alors les protistes pour faire simple, c'est des cellules, c'est des unicellulaires, c'est-à-dire des organismes qui sont composés d'une seule cellule, qui vont vivre en milieu aquatique le plus souvent. Et donc, dans Tara Océan, on va regarder les unicellulaires qui vont faire de la photosynthèse et qui vont vivre, en fait, dans l'eau. Donc, ils vont produire de l'oxygène, ils vont également fixer du CO2 et ils sont à la base de la chaîne alimentaire, en tout cas dans les milieux marins, mais en fait, sur toute la planète. Et ils produisent, le plancton va produire la moitié de l'oxygène de l'atmosphère terrestre.
Alors, est-ce qu'on en trouve vraiment partout ? Parce qu'il me semble que c'est des organismes photosynthétiques. Donc, qui dit photosynthèse dit lumière. Est-ce qu'on en trouve aussi dans le fin fond des océans ?
Alors, on peut en trouver. Maintenant, ça va dépendre où dans les océans. Donc, justement, dans Tara, lorsqu'on faisait une station de prélèvement, on faisait un prélèvement en fait à la surface, un prélèvement à ce qu'on appelle la DCM, ça va être une couche dans l'eau qui va avoir une profondeur variable, mais on va trouver en fait le maximum d'activité photosynthétique. Et ensuite, ce qu'on faisait, si le temps le permettait, on faisait encore un prélèvement dans des zones beaucoup plus profondes pour voir en fait quels sont les organismes qui peuvent y vivre. En fait, on pense que les organismes photosynthétiques ne peuvent pas y vivre parce qu'il n'y a pas de lumière. Par contre, lorsqu'ils meurent hauteur et qui sont plus hauts dans la colonne d'eau, ils peuvent couler et être mangés par d'autres organismes ensuite, qui ne s'appellent pas vraiment du plancton, mais qui sont des organismes aussi unicellulaires qui vivent en profondeur. Donc ça fait partie, c'est tout un écosystème en fait.
Alors comment vous avez sélectionné les lieux où vous êtes allé prélever du plancton justement ?
Alors au préalable, en fait, on voulait faire un tour du monde, donc ça c'est le côté qui fait rêver. Ensuite, on a regardé tout type de données, des données satellites, des cartes océanographiques qui existent déjà. On a dû et donc là, en fait, on a choisi des points d'intérêt par rapport aux conditions physico-chimiques, c'est-à-dire si on passait dans des milieux riches où il y avait beaucoup de nutriments, donc où beaucoup d'organismes pouvaient en fait vivre. On allait passer dans des milieux où l'eau pouvait être plus acide, on va passer dans des milieux beaucoup plus pauvres. Et ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est savoir qui est capable de vivre à quel endroit et dans quelles conditions. Ensuite, il va y avoir le côté technique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a moyen de faire une escale dans un port assez gros pour se ravitailler, en tout cas toutes les 3 à 5 semaines.
Concrètement, sur le bateau, au quotidien, comment est-ce que vous travaillez ?
Alors, c'est une coordination entre les scientifiques et les marins. On va dire que c'est les scientifiques qui ont en tête quelle station et quel point ils veulent en fait échantillonner. Maintenant, ça va se faire en fonction des capacités du bateau et donc ça se fait vraiment, et des conditions météo. Donc ça se fait en coordination scientifique et marin. Et c'est surtout grâce aux marins qu'on arrive à faire notre travail de scientifique.
D'accord, alors quand vous n'êtes pas sur le bateau, vous êtes où ? Votre laboratoire, il se trouve où exactement ?
Alors là, justement, pour le projet Tara, mon laboratoire se trouvait à la station biologique marine de Roscoff, donc dans le Finistère, en Bretagne Nord.
D'accord, et alors pour finir, donc, le bateau est rentré samedi 31 au port de Lorient. Alors c'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'un chapitre.
C'est la fin d'une histoire de terrain, mais c'est un gros commencement pour l'analyse des données scientifiques. Et surtout, cette mission, ça a permis de créer des liens entre scientifiques, déjà de laboratoires, tout autour du monde. Il y avait beaucoup d'Européens, des Américains, des gens qui venaient d'Argentine aussi, par exemple. Et donc, pour moi, c'est la fin d'une aventure sur le terrain, mais l'aventure humaine et scientifique continue.
Alors, sur le bateau, les scientifiques ne sont pas seuls. Avec eux se trouvent des professionnels de la navigation, et parmi eux, Daniel Cron. Il nous raconte comment s'organise la vie à bord et nous fait part de ses souvenirs les plus marquants.
Bonjour, je m'appelle Daniel Cron. J'ai participé à l'expédition Tara Océan sur ces 2 ans et demi, et pas en continu, par tranche, en embarquant 3 à 4 mois sur différents legs, en tant que soit second capitaine, soit chef mécanicien. J'ai participé dès le début de l'expédition à la préparation de celle-ci en chantier à Lorient. Puis donc j'ai fait le départ et différents trajets donc durant l'expédition.
Alors, qu'est-ce que ça change d'être second capitaine sur ce bateau un peu atypique, notamment au niveau de son équipage ?
Alors, quand j'ai passé la plupart de mon temps en étant chef mécanicien, mais quand j'ai embarqué en tant que second capitaine, j'avais une part de stress forcément, mais ça, est-ce que je tiendrai le coup, quoi, hein. Et une part de fierté en même temps, c'était à l'entrée du canal de Suez. J'ai jamais passé le canal, et bon, en tant que marin, c'est un endroit symbolique. Donc, c'est valorisant de participer à une telle expédition. C'est un bateau complètement atypique et de pouvoir naviguer, là, de faire de la voile. Normalement, moi, je navigue sur des bateaux de type pétrolier, porte-conteneurs ou paquebot de croisière. Voilà, c'est ma formation, normalement. Donc, pouvoir naviguer sur un bateau comme Tara, c'est une liberté, c'est plein de rencontres extraordinaires avec les gens. Et puis surtout pour un but environnemental qui est pour moi fondamental, très important, chose que je ne pouvais pas faire sur d'autres bateaux.
Alors justement, vous parlez de voile, rapidement, c'est quoi comme type de bateau, Tara ?
Tara, c'est un dériveur, donc il a 2 dérives qui sont rétractables, et on parle souvent de la goélette Tara, parce que donc, c'est un voilier à 2 mâts qui sont de la même hauteur. Et surtout, Tara, c'est avant tout un bateau complètement atypique qui a été construit par Jean-Louis Etienne il y a 20 ans, spécialement pour aller dans les glaces. Donc c'est pour ça qu'il a une forme si particulière, avec une coque évasée et en aluminium, très, très robuste, qui durcit avec le froid, parce que l'objet de ce bateau est de se faire emprisonner dans les glaces. Et donc, quand la glace comprime la coque évasée, le bateau remonte sur la glace sans se faire écraser. Donc, c'est un bateau, il n'en existe pas d'autres comme ça, à ma connaissance. Et puis, donc, c'est un voilier très grand. Il fait 36 mètres de long, 10 de large et 30 mètres de haut du bas de la coque en haut des mâts. Et 120 tonnes lège.
Combien il y a de membres dans l'équipage sur le bateau ?
Il y a une quinzaine de membres, 14 à 15, et chacun a sa place à bord, c'est le minimum, enfin, ça ne peut pas tourner autrement. On a moitié de l'équipage sont des marins, et l'autre moitié, donc des scientifiques. Et les uns les autres interagissent, enfin, s'aident mutuellement, les marins pour mettre les équipements scientifiques à l'eau, et les scientifiques nous aident à hisser les voiles. Et après, au niveau des tâches de la vie commune à bord, donc on mange tous ensemble, on fait les tâches ménagères ensemble, la vaisselle, le ménage. Puis bon, ça reste quand même un voilier, bien que grand, donc on est tout le temps les uns avec les autres. Voilà, c'est une... Et de là naît vraiment une complicité. Du coup, au-delà de l'aventure scientifique, c'est une grande expérience humaine. Donc on a des marins essentiellement français, des scientifiques qui viennent un peu de tout horizon, des laboratoires dans lesquels ils travaillent. Ils sont là quelques semaines à bord, les marins plutôt quelques mois. On a également à bord régulièrement des journalistes qui peuvent venir pour faire un article particulier. On a eu récemment chez au magazine ou Sciences et Avenir, et on peut avoir également des artistes. Ça, c'est la volonté des propriétaires du bateau, donc Agnès B et son fils Étienne Bourgois, de donner une autre dimension à cette expédition. Donc on a eu des gens qui ont défilé comme des dessinateurs, des peintres, ou qui ont fait des BD. Voilà, et c'est bien, ça permet d'avoir une autre approche originale et artistique.
Alors, est-ce que vous, de votre côté, vous vous êtes intéressé aux recherches menées par les scientifiques ? Et, ou alors, est-ce qu'ils vous ont sollicité, peut-être ?
Ah oui, je suis passionné par les problématiques environnementales. Enfin, c'est fondamental. Enfin, pour moi, c'est la première... Ça devrait être, dans l'esprit de tous, la première problématique mondiale. Quoi. Comment protéger la planète ? Que faire comme geste au quotidien pour éviter de polluer ou de consommer à outrance ? Et donc oui, ces rencontres, c'était justement au-delà de naviguer sur un voilier qui me faisait rêver, c'est de pouvoir justement faire ces rencontres et apprendre de chacun, parce qu'il y a un spécialiste dans chaque domaine à bord embarqué, donc aussi bien en optique, en océanographie, qu'en virus, en bactéries, en plancton, ou en corail quand on a fait des legs coraux. Donc j'ai appris plein de choses, et oui, c'était passionnant. Hein. Puis j'adore enfin voyager, découvrir des choses, donc pour moi c'est le rêve.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué tout au long du voyage ?
Dans nos recherches, dans notre étude du plancton, on a un des filets qu'on utilise, s'appelle le Manta, et il permet de récupérer des échantillons plastiques. Et on s'est rendu compte qu'on en trouvait un peu partout dans le monde, où qu'on aille, dans les océans. Et c'est assez, même en Antarctique. Hein, quand j'ai appris ça, ça m'a un peu stupéfait. Et horrifié, parce que l'Antarctique est complètement préservé. Normalement, il n'y a personne à habiter. Et puis même, il y a un courant tout autour de l'Antarctique qui le sépare des autres océans. Donc pour qu'il y ait du plastique là-bas, c'est ça qu'il a voyagé à travers tout le monde. Et on le retrouve soit parfois en gros morceaux, soit en petites particules. Et donc c'est un véritable fléau. C'est-à-dire qu'on jette, c'est nous qui polluons comme ça. Il faut vraiment qu'on change nos manières de consommer. Parce que tous ces rejets après sont ingérés par les animaux. Et entre autres le poisson qu'on mange par la suite et qui nous intoxique aussi forcément. Et il y en a partout.
Alors pour finir, est-ce que vous avez une petite anecdote de voyage ?
Oui, j'ai un paquet d'anecdotes. Celle qui est la plus symbolique et une des choses les plus belles que j'ai pu voir, c'était donc dans l'océan Indien. On était en période de bloom, donc à un moment où il y a une grande concentration de plancton. Il se trouve que donc de nuit, certains types de plancton produisent une lumière donc bleue fluo. C'est un phénomène qu'on appelle de bioluminescence. Donc il n'y avait pas de lune. On avait éteint tous les feux parce que on était dans une zone à risque de piraterie maritime. Et donc on naviguait dans la nuit noire totale, et le bateau provoquait, donc en passant dans le plancton, provoquait des petites vaguelettes bleutées. C'était splendide. Et puis d'un coup, j'ai vu deux traînées venir au loin, parce que j'étais de quart, donc je veillais avec les jumelles pour voir s'il y avait d'autres bateaux. J'ai vu des traînées arc-en-ciel très loin foncer vers le bateau. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Puis j'ai entendu pfft, j'ai baissé les yeux et là j'ai vu deux dauphins qui jouaient à l'étrave, mais sous l'eau. Mais c'était tellement lumineux qu'en fait je voyais chaque détail de leur corps. Et c'était splendide, j'ai jamais vu un truc, une chose aussi belle sur Terre, quoi. Et c'était symbolique dans la mesure où, pour la première fois, je réalisais que voilà, le plancton est quelque chose de petit. C'est un peu frustrant quelque part, quoi. Il faut vraiment le voir au microscope. Et là, j'avais la manifestation visuelle, physique de cette existence, quoi, du plancton.
On s'accorde une petite pause musicale et on s'écoute Che Sudaka avec le titre Ombre Libre.
Me llamo Pedro González, pa' mi mujer soy mi amor, pa' mis amigos Pedrito, para mi jefe el peor. Me levanté bien temprano, a mi mujer despedí, llevé a la escuela a mis niños y hacia el trabajo salí. Cada mañana entré al bar de Don José, miré un poco de ese diario donde no hay nada que ver. Me tomé el tren apurado, pues no lo puedo perder. Si llego tarde al trabajo, me gritarán como ayer. Hombre, hombre, por la ciudad, just a little crazy, just a little. Hombre, hombre libre, por la ciudad. This is alright, feeling in my mind. Alright. El día va transcurriendo, el jefe viene a por mí. Oh, ¿qué será de mi vida si me llega a despedir? He hipotecado mi vida, he hipotecado mi ser. ¿Qué le diré a mi familia? ¿Qué le diré a mi mujer? Ahora sin nada soy libre. Hombre, hombre libre, just a little crazy, just a little. Hombre, hombre libre, por la ciudad. This is alright, feeling in my mind. Alright. Hombre, hombre libre, por la ciudad. Just a little crazy, just a little. Hombre, hombre libre, por la ciudad. This is alright.
De retour dans le Labomatique pour cette émission spéciale consacrée à l'expédition Tara Océan. Alors j'ai également rencontré Michel Chouzier qui coordonne les projets en lien avec le développement durable et l'éducation au rectorat de l'Académie de Rennes. Il nous parle des différents projets mis en place dans les écoles, des aspects pédagogiques, des objectifs et de l'importance d'accorder du temps à ce genre de thématique.
Oui, bonjour, donc Michel Chouzier, je suis au rectorat le responsable de l'éducation au développement durable. Bon, je suis scientifique de formation, je suis inspecteur de sciences de la vie et de la terre. Et donc je voudrais dire que sur cette opération, sur cette expédition Tara, très, très vite le rectorat de Rennes a signé une convention avec le fonds Tara sur les aspects pédagogiques. Et cette convention avait deux volets, un volet académique, Bretagne, qui s'appelle l'opération En suivant Tara, hein, qui nous a permis de mettre en contact à peu près 3000 élèves avec cette mission-là, soit des contacts avec des scientifiques, avec des membres d'équipage, ou simplement des travaux menés dans les classes à partir de l'expédition. Et puis, dans la convention aussi, une mission au niveau national, puisqu'on était chargé de réunir une équipe d'enseignants. Alors, ils étaient tous morbihanais, hein, puisque le bateau était parti de Lorient, qui avait pour mission de réaliser des fiches pédagogiques, hein, des pistes pédagogiques à destination des enseignants sur toute la France pour, dans les différentes disciplines, accompagner le bateau. Et puis ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'évidemment sur la durée de la mission, finalement, nos entrées éducatives, elles ont été essentiellement autour de l'éducation au développement durable, mais l'éducation au développement durable, c'est une façon de faire de la science aussi. Évidemment, ce qu'on attend maintenant, et peut-être plus au niveau lycée ou fin du collège, c'est de voir comment un certain nombre de résultats scientifiques recueillis par Tara pourraient passer de la recherche assez rapidement vers l'enseignement, hein, comme support d'études, comme support de réflexion. Et puis, au-delà des résultats eux-mêmes, il y a une question qui est très importante pour nous. On y a travaillé un petit peu, on a réuni des profs avec justement des chercheurs de Roscoff, hein, qui étaient venus nous rencontrer à Vannes. C'est toute la question de la démarche scientifique, des méthodes d'exploration scientifique, les outils qui étaient utilisés sur Tara. Il y a des questions très, très intéressantes. Alors, ça paraît très simple, je trouve, quand on présente les techniques de relevé du plancton, etc. Mais en fait, il y a des questions scientifiques intéressantes sur comment on fait pour laver les filtres, pour avoir des résultats qui soient fiables, pour éviter qu'il y ait des mélanges entre les relevés. Donc, il y a toute une série de questions sur la démarche scientifique, sur la rigueur, sur les précautions qu'il faut prendre, etc., qui sont extrêmement formateurs pour nos élèves. Donc c'est aussi un aspect, hein, qu'on a souhaité développer et qu'on continuera à développer, je pense, dans les années qui viennent. Voilà. Et puis il y a aussi un autre aspect qui a beaucoup frappé les élèves, je pense, c'est quand même le plancton, quand on le regarde, c'est beau. Et donc cet aspect-là, il n'est pas anodin non plus. C'est-à-dire que la science, c'est aussi un objet d'émerveillement. Et l'observation du plancton, c'est aussi un objet d'émerveillement possible. Et je trouve dans ce monde qui est très virtuel, voir que le réel fait rêver, c'est aussi une mission qui nous est confiée, je pense, et qui est très importante.
Alors pour en savoir un peu plus sur les projets mis en place dans les écoles, je suis allée à la rencontre de Christine Monet, enseignante et documentaliste dans un collège à Cancale. Elle suit depuis plus de 2 ans le bateau avec des élèves volontaires et a créé le club Tara Océan. Elle nous parle des différents ateliers mis en place avec ses collègues enseignants.
Christine Monet, je suis donc la documentaliste du collège René Cassin, situé à Cancale.
Alors vous êtes mobilisée sur le projet En suivant Tara avec vos élèves. Alors en quoi consiste ce projet et quels sont les objectifs ?
L'objectif était effectivement qu'à travers cette expérience de suivre cette goélette pendant 3 ans, de sensibiliser les élèves aux problèmes de l'environnement. Et pour donner du sens au cours théorique, on trouvait que c'était intéressant de partir d'un support réel et d'un tel voyage, en expliquant donc aux élèves le voyage, les buts de ce voyage, et de créer donc différents ateliers animés par différents enseignants. Donc au départ, quand on a su que cette goélette partait, il y a plusieurs enseignants qui étaient sensibilisés donc à ce projet, qui avaient déjà suivi d'ailleurs la goélette quand elle était dans l'Antarctique. Et donc on a eu l'idée de créer un club Tara Océan, avec les élèves volontaires pendant l'heure du midi. Et donc pendant 3 ans, on s'est réunis tous les mardis de 13h à 13h45. Alors j'étais seule au départ, et puis je me suis au bout de quelques mois assez vite essoufflée, et donc j'ai cherché de l'aide et j'ai proposé à d'autres enseignants de venir avec moi suivre cette aventure. Et là donc on a vraiment fait un projet interdisciplinaire, puisqu'on a travaillé avec un professeur de mathématiques qui s'est occupé de toute la partie navigation bateau. Un professeur de physique chimie qui lui a parlé plutôt de la théorie des éoliennes, les marées. le professeur d'histoire-géographie qui a étudié donc toutes les escales avec les élèves et les pays. Et puis deux professeurs de SVT pendant 2 ans qui ont étudié plus particulièrement donc le plancton, la chaîne alimentaire. On a également été à l'aquarium de Saint-Malo suivre un atelier Riquiquer le plancton où les élèves ont également été sensibilisés, donc microscope et chaîne alimentaire. Et donc la visualisation du projet s'est effectuée par des cartes, le trajet sur les vitres du CDI et des panneaux sur le plancton, et puis des ateliers plus ludiques où il y a eu des créations de petites éoliennes et de cerfs-volants.
Combien d'élèves sont mobilisés sur le projet depuis qu'il a commencé ?
Alors on est arrivé à 32 élèves au bout de 3 ans, mais des élèves ont suivi le projet que pendant 1 année et les autres 2 années.
Et les collégiens, ils sont plutôt contents de manière générale ? Est-ce qu'ils ont trouvé une nouvelle vocation peut-être ?
Ah oui, je pense, parce que j'ai oublié de parler aussi qu'il y a des P3, donc ont également suivi le projet à travers les différents métiers qu'on pouvait rencontrer sur le bateau, donc je sais qu'il y a eu un travail qui a été fait à ce niveau-là. Et puis effectivement, ça peut être fait évoluer les esprits, surtout dans l'observation du plancton. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont été très motivés, et le bateau, notamment la visite qu'on a faite donc à Lorient mardi, des élèves qui étaient très intéressés, donc peut-être des nouvelles vocations, oui. Alors, un des éléments qui a marqué le plus les élèves, quand je leur ai posé la question là, ces derniers jours, c'est effectivement la venue de Daniel au collège. Le fait que Daniel soit venu au collège présenter le périple qu'il avait fait avec un diaporama, de rencontrer en vrai, comme ils ont dit, on va rencontrer en vrai, parce que jusqu'à présent, on dialoguait avec lui avec des questions-réponses, mais son intervention au collège a remotivé beaucoup les élèves. Donc ils ont présenté les projets à Daniel et puis il a fait une séance de dédicace, donc ils sont tous repartis avec leur dédicace. Et c'est vrai que c'est important parce que ça donnait un peu du sens à toute cette activité qui est parfois lourde à porter. Il faut quand même tout le temps motiver les élèves, motiver les enseignants. Et là j'ai eu vraiment un rôle assez important parce que s'il n'y a pas une personne qui motive l'ensemble des enseignants et l'ensemble des élèves, je pense que tenir un projet de 3 ans comme ça, c'est un peu difficile aussi.
Voilà, j'espère que cette émission vous aura fait voyager l'espace de quelques minutes. Tara Océan, la fin d'un chapitre pour une expédition hors du commun, mais le début d'un grand pas pour la recherche océanographique. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Labomatique. Clap the mic.